France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Les policiers sont appelés à défiler aujourd'hui à Paris. Cette marche nationale de la colère va réunir tous les syndicats. C'est une première depuis près de 20 ans en France. La profession dénonce la dégradation des conditions de travail et la vague de suicides chez les forces de l'ordre. Hier, ce sont 2000 personnes qui ont manifesté à Rouen pour demander la transparence après l'incendie de Lubrizol. Dans la foulée, la préfecture communiquait sur les produits chimiques qui se trouvaient sur le site. Il n'y en avait plus de 5200 tonnes. 160 fûts de ces produits dans un état délicat doivent encore être évacués de l'usine. Selon la direction régionale de l'environnement de Normandie, il n'y a pas de risque lié à l'amiante selon les tests qui ont été effectués dans l'air. Un ancien Premier ministre et son ministre de la Défense seront appelés à la barre. Édouard Balladur et François Léotard sont renvoyés en procès devant la Cour de justice de la République dans l'affaire Karachi. Les deux hommes sont soupçonnés de complicité, d'abus de biens sociaux et de recel. Un coup d'État, voilà comment Donald Trump qualifie la procédure de destitution qui le menace aux États-Unis. Les démocrates reprochent en fait au président américain d'avoir demandé à son homologue ukrainien d'enquêter sur son rival Joe Biden. En bref encore, la cour d'appel de Tunis qui rejette la nouvelle demande de libération du candidat à la présidentielle, Nabil Karoui, reste donc en prison. Ses partisans préviennent déjà, s'il n'est pas élu le 13 octobre prochain, ils déposeront un recours pour contester les résultats pour manquement au principe de l'égalité des chances. Nabil Karoui est, je vous le rappelle, soupçonné de blanchiment et de fraude fiscale. Et puis c'est aujourd'hui que la Française Sylvie Goulard sera auditionnée devant les eurodéputés du Parlement. Elle est candidate pour devenir commissaire au marché intérieur, mais des soupçons d'emploi fictif pèsent sur elle. Les candidats hongrois et roumains ont déjà été écartés en début de semaine. Nous reviendrons sur ces accusations dans le journal de 6h30.
Samedi 5 octobre à 11h et 20h, France Culture et l'Orchestre National de France vous invitent au concert fiction Moby Dick, d'après le roman d'Herman Melville, librement adapté par Stéphane Michaka. Un spectacle radiophonique pour célébrer le bicentenaire de la naissance de Melville. Comédiens, musiciens, bruiteurs, tous réunis au studio 104 de la Maison de la Radio. Déborah Waldman à la direction d'orchestre, musique originale de Fabien Waxman, réalisation de Cédric Ossir, programme et réservation sur le site maisondelaradio.fr ou 01 56 40 15 16.
Nous sommes le mercredi 2 octobre, il est 6h03 sur France Culture et comme tous les mercredis, nous retrouvons Toufik Hakem pour parler bande dessinée.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour et bienvenue dans le réveil culturel. Tous les mercredis, c'est l'actualité du cinéma. Avec aujourd'hui, parmi les nouveaux films qui sortent en salle, un documentaire de Charles Aznavour, réalisé par Marc Di Domenico. Un film d'un grand chanteur décédé en octobre de l'année dernière et réalisé par un autre, voilà, ça demande une explication. Et bien je vous la donne tout de suite. De la fin des années 40 jusqu'au début des années 80, Charles Aznavour filmait avec ses propres caméras. Il filmait les pays parcourus durant ses tournées, il filmait aussi sa famille, ses amours et ses proches, les coulisses de ses concerts, les ambiances de plateaux de cinéma dans les films où il était comédien. Le chanteur si souvent filmé devient filmeur à son tour. Quelques décennies plus tard, il donne la permission à Marc Di Domenico de voir ses heures de film tournées au fil des années et d'essayer d'en faire un film, sorte de journal intime, ou si vous préférez, Charles Aznavour contre chant. Ce film, avec des images tournées par la grande vedette du musical, a été donc monté par Marc Di Domenico. Le regard de Charles, tel est le titre du film qui sort aujourd'hui dans quelques salles de cinéma.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Bonjour Marc Di Domenico.
Bonjour.
C'est donc un film à deux têtes. C'est un film de Charles Aznavour ou c'est votre film? Ou c'est votre vision sur tout ce que Charles Aznavour a pu emmagasiner comme image tournée durant sa vie? Parce que c'est une bonne partie de sa vie.
Oui, c'est une partie qui va de fin des années 40 jusqu'aux années 80. En fait, je me suis arrêté en 82 parce que pour moi, ce sont les années pellicule. Parce qu'il n'a pas arrêté de filmer après.
Il est passé après, à la vidéo après.
Voilà, il est passé VHS, H8, mini-DV. Jusqu'au bout, il avait toujours une caméra près de lui et il filmait.
Charles Aznavour, on savait qu'il aimait beaucoup le cinéma. On l'a vu dans des films célèbres. On sait qu'il aurait aimé réaliser des films. Mais là, ces images, est-ce qu'il avait l'intention de les montrer ?
Je ne pense pas qu'il y avait forcément une intention de les montrer. Mais en tout cas, il y avait une intention derrière ça. Et c'est ça que je me suis amusé, parce que c'est quand même récréatif de faire ça. C'est des images extraordinaires qui nous renvoient... Enfin, moi, je suis né en 63. Donc, en fait, chaque image déclenche un souvenir. Et c'est là où c'est intéressant. C'est pas uniquement le film d'une vedette, en fait. C'est le film d'un homme qui a un regard sur un siècle révolu, en fait. Et sur une forme de musique aussi, révolue. Parce que c'est les années pellicule, mais c'est aussi, parce que la bande originale est très importante, les années vinyle. Et donc, il y a une forme de musique, des orchestrations. À un moment, il fait une jam session, on le voit au piano, scatter quoi, avec ses musiciens.
Et c'est vraiment la folie, d'ailleurs, ce document.
Et donc, c'est ce film, ces images, c'est... oui, alors c'est Charles Aznavour, mais avant, Charles Aznavour, c'est Charles, quoi. Et c'est vraiment le regard d'un homme sur le siècle qui traverse.
Quoi. Il y a un côté journal filmé, hein, parce qu'il parle aussi de l'intime. Il parle des femmes qu'il a aimées,
oui.
il parle de ses proches.
Oui.
Et puis, il y a aussi un côté documentaire. Il filme le monde tel qu'il le voit, parce qu'il ne reste pas autour de la salle de concert. Il adore aller...
Non, pas du tout, il s'échappe.
Ouais. Il s'échappe, il va dans les rues, il filme un monde... Effectivement, vous le dites très bien, un monde révolu. Donc, il y a un côté
mais il parle pas,
documentaire.
En fait. Enfin, il parle de... Mais en fait, non, il regarde. Et je dis « il parle pas » parce que les bandes sont muettes. Le 8, le Super 8, il n'y a pas de son, en fait. Le son est venu après, quand il a filmé en 16. Et donc, c'est... C'est là où c'est beau, en fait, moi, quand je suis tombé sur les images au départ, le premier regard, c'était donc des images muettes, et ça a laissé libre cours à mon imagination. C'est-à-dire que j'ai imaginé, justement, qu'est-ce qu'il aurait pu dire sur ces images, qu'est-ce qu'il dirait, et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme musique dessus. C'était vierge, en fait.
Et ça donne donc un film avec des images de Charles Aznavour, mais interprété, commenté, mis en parallèle avec sa vie publique par vous-même.
Oui, en fait, c'est moi j'ai fait des associations d'idées, mais en fait, ce film c'est de la mémoire, mais de la mémoire affective en fait. Moi, c'est tout ce qui a pu me toucher. Moi, j'ai grandi avec ses chansons.
On a tous grandi avec les chansons du grand Charles.
Je crois qu'on a tous une chanson qui correspond à un moment important de notre vie. Mais moi, ces chansons, elles m'ont accompagné dans les bons moments, dans les mauvais moments. Et souvent, il était là quand la vie était un peu compliquée. Et ça me faisait du bien, en fait. Et j'ai réussi à trouver des associations et j'ai eu la chance de pouvoir lui en parler parce qu'en fait,
il savait que
j'ai commencé. Il était là encore. Et c'est en dérochant. Une scène en particulier à Hong Kong où on voit quelqu'un qui tire sa charrette. On voit beaucoup, il y a des porteurs, il y a des gens qui bossent quoi. Qui
vont le voyage de Hong Kong à Macao, c'est vraiment
ouais, c'est beau là. Ouais,
c'est un très très beau document.
Ouais, de Victoria, là, c'est magnifique. Ouais. Et donc ça me rappelait à la fois des choses de son enfance, la façon dont il parlait de son père qui chargeait sa charrette, qui achetait de la marchandise à Drouot et qui allait la vendre aux puces de Saint-Ouen. Pour gagner 3 sous, quoi. Et il faisait ce trajet, quand même, de Drouot au Puce de Saint-Ouen, en tirant sa charrette. Charles était à l'arrière. Et il écrit ça, il le dit. C'est une image qui m'a frappé, vraiment, pour toujours. Et quand il filme, il y a des occurrences comme ça. Ça revient tout le temps. Il filme des porteurs en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Et c'est là où j'ai pu commencer, en fait, un dialogue avec ces images et avec Charles. Parce que je lui dis, tu vois, t'as filmé ça. Mais ça, moi, ça me fait penser vraiment à ce que tu dis là. Et là, il me dit, ah bah oui, peut-être, c'est inconscient. Et je crois que nos deux inconscients, là, ont travaillé. Parce que lui, quand il filmait, contrairement au fait d'écrire des chansons, Charles, quand il écrivait des chansons, il était hyper méticuleux. Il revenait dessus. Enfin, c'était pas un premier jet, et je vais chanter. C'était vraiment, ils travaillaient, ils retravaillaient. Alors que là, le geste de filmer, c'est instantané, spontané, c'est la boussole de l'inconscient, quoi.
Il savait que votre projet était de faire un film à partir de ses films à lui.
Oui, ça, il savait, puisque c'est un peu sa volonté. Hein. Enfin, c'est pas moi qui ai décidé. C'était aussi sa volonté. Mais en fait, ça, on s'est pas beaucoup parlé. Hein. C'était assez naturel. C'est venu pas par hasard, parce que c'est quand même lui qui m'a dit voilà, j'ai ce matériel-là. Regarde, est-ce que tu penses qu'on pourrait. Il y avait aussi une forme de pudeur. Il était très pudique par rapport à ces images.
Vous avez vu mon nom en lettres rouges sur le fronton de l'Olympia. Vous m'avez vu sur scène, de loin, de près, en images. Ces images qui, bout à bout, semblent dessiner ma vie. Vous m'avez vu, oui, mais ce que vous ne savez pas, c'est que moi aussi, je vous ai vu. En fait, je vous regarde depuis le début. C'est ma caméra qui m'a amené partout, au bout de la Terre, au pays des merveilles. Toutes les bobines sont là. Je ne les ai encore montrées à personne. Je n'ai jamais revu ces images. Mais je savais en les filmant qu'un jour vous les verriez.
J'ai vécu le feu dans l'âme pour les filles au cœur chaud. J'ai vécu le désir planté dans la peau. J'ai vécu au nom des femmes pour l'amour et ses envies, croyant par moments toucher le paradis.
Le regard de Charles, le documentaire sort aujourd'hui au cinéma avec donc ces images tournées par Charles Aznavour et réalisées, j'allais dire, par vous, ou montées du moins par vous, interprétées, parce que vous avez interprété ces images. Vous avez établi ce parallèle entre les images tournées par Charles Aznavour et sa vie, sa vision du monde, Marc Di Domenico.
Oui, c'est ça. C'est un film qui a deux vies, en fait. Il y a 40 ans de vie de Charles Aznavour, qui a fait ces images. Et puis, il y a ma vie à moi. Il y a mes 57 ans. Moi, on me demande toujours quand est-ce que vous avez rencontré Charles Aznavour pour la première fois. Et moi, c'est en 63, dans mon berceau, au-dessus du salon de coiffure de mes parents à Toulouse, quoi. J'ai grandi. Donc, la première rencontre, elle est là. Et toute cette période de l'enfance et de l'adolescence, je crois que c'est ça nous marque, quoi. On est
et comment êtes-vous arrivé à cette caverne d'Ali Baba, c'est-à-dire cette chambre où Charles Aznavour stockait toutes les images qu'il tournait?
Bah, alors Charles, on s'est rencontré la première fois en 99. Moi, j'étais ami avec Micha, son fils, depuis 3 ans déjà, depuis 1996. Donc, c'est une longue amitié hein, qui continue. Et on se voyait régulièrement, en fait, dans sa maison de Mauriès, quand il revenait de voyage, etc. Donc, il y avait des moments comme ça. Mais on échangeait sur le cinéma. Il est très, très cinéphile. Moi, j'aime beaucoup le cinéma. Tous les cinémas, d'ailleurs. Il a un goût très éclectique, hein, parce qu'il adorait le cinéma chinois. Enfin, ça allait de Woody Allen à Wong Kar-wai, enfin bon, peu importe. Et on avait beaucoup de discussions sur le cinéma et sur la musique. Et puis moi, j'aime beaucoup les chansons des années folles, les chansons d'avant-guerre, tout ça, etc. Et donc, on passait des moments comme ça à parler de choses et d'autres, ce qui fait qu'on a tissé une relation amicale qui avait rien à voir avec le travail, qui était des bons moments passés à parler littérature, cinéma, chansons, voilà, de façon très détendue.
Et puis un jour, il vous parle
en 2015, enfin j'avais fait pour Arte une captation au Palais des Sports, donc j'avais commencé à filmer. Et avant ça, j'avais fait un film.
J'y étais. Très beau concert, ouais.
Merci. Et avant ça, j'avais fait un film, je voulais faire un film en 35 mm, noir et blanc, avec une caméra Atom, celle qu'utilisait Godard, etc. Me mettre dans ces conditions-là, où on était une équipe de 4, on a fait un projet un peu fou. Et Charles est venu sur le tournage, en fait. Il est venu nous voir. Et alors, c'était une surprise énorme pour tout le monde, parce qu'on avait Charles Aznavour qui était là. Il regardait ma caméra, il me disait, mais pourquoi tu t'embêtes à faire ça aujourd'hui? Regarde. Et là, il m'a sorti la dernière caméra Canon numérique. Et on a partagé cet amour de la pellicule. Là, il m'a expliqué qu'il avait une cinémathèque à l'époque. Il achetait les copies 35 il était fier d'avoir la première copie des Einstein. Enfin voilà, c'était un vrai passionné. Et je crois que petit à petit, ce rapport au cinéma, le fait peut-être qu'il m'ait vu faire ce film dans des conditions peut-être qu'il a un peu connues à l'époque de la Nouvelle Vague, à ses débuts, il y avait un charme qu'il retrouvait peut-être. Et il s'est dit, mais t'es complètement fou de faire un truc comme ça aujourd'hui. Il avait raison, j'étais complètement fou. Mais c'était une passion, je crois, une passion partagée. Et donc un jour, j'ai commencé à le filmer parce que j'avais fait un documentaire pour TF1 qui s'appelle Autobiographie, où je l'ai suivi pendant 4 ans. Et là, je le filmais, on échangeait énormément. Et donc un jour, on est à Mouriès et dans sa bibliothèque, il y a une porte dérobée qui donne sur un bureau. Dans ce bureau, il y avait un très joli tableau de Brigitte Bardot, une toile qui représentait Brigitte Bardot, des affiches originales de films. Il y avait Paris au mois d'août, Taxi pour Tobrouk. Et dans un coin, il y avait toutes ces bobines rangées. Et il me dit, bah tiens, regarde, c'est des films que j'ai fait tout au long de ma vie.
Que j'ai tourné.
Et là, je dis, ah bon, mais alors, attends, mais c'est quoi ces films? Oh ben, je sais plus trop, faudrait que tu vois ce qu'il y a.
Tout a commencé par un présent, c'est Edith Piaf qui va lui offrir sa première caméra.
Oui.
Charles Aznavour est très content.
Oui, oui, c'est ça. Ils sont à New York, c'est une paillard, et il a commencé à filmer très tôt. Hein. D'ailleurs, dans le film, il y a des images où il est sur le bateau, justement, il va retrouver Piaf à New York, il va se marier avec Jacques Pils. Et elles sont jolies, ces images, parce qu'on voit une Piaf, justement, qui est radieuse, qui est souriante. On sent vraiment la complicité. En fait, souvent,
plus que la complicité. On sent à quel point c'est elle qui lui donne la bénédiction concernant les femmes de sa vie. C'est incroyable.
Ah oui, ça, c'était l'examen de passage. Ouais. Et il y a ce clin d'œil qui est beau comme tout, je trouve. Et souvent, on a des images de Piaf où elle est un peu vieille, courbée. On la voit toujours presque malade. Et là, on la voit radieuse. C'est très beau. Enfin, moi, quand j'ai vu ça, c'est ce visage-là, avec ses couleurs, en plus, parce que le Kodachrome, quoi, ça a quand même...
Et donc, il filmait tout, en fait. Il filmait sa vie intime, sa famille, des films de vacances, on dirait. Mais aussi, il filmait comme un reporter, c'est-à-dire à chaque fois qu'il se rendait au bout du monde, il aimait sortir dans les rues et filmer les gens, filmer les rues, filmer les villages.
Oui, Abidjan, parce qu'en fait,
Dakar, Charles Aznavour remontant le fleuve au Bangui, tel un Ulysse, parce que c'est l'image qui revient, hein, donc vous faites bien d'ailleurs d'avoir mis l'accent là-dessus, Marc Di Domenico, et puis l'Amérique, Montréal qui va compter vraiment pour lui, puisqu'il va rester 7 ans alors qu'on l'attend, l'Amérique qui va quitter pour aller au Maghreb, à Casablanca, où il va connaître son premier succès.
Bah, le Maghreb, c'est très important, en fait, dans sa carrière, parce que c'est les premiers qui l'ont vraiment aimé.
Et qui l'aiment toujours,
je peux vous l'assurer. Non, mais à l'époque, c'était très dur, parce que vraiment, la critique, elle l'a pas épargné au début. À Paris, c'était très, très, très dur, quoi. C'était on l'a traité de tout, quoi. Qu'il était trop petit, qu'il avait pas de voix, qui presque c'était un gnome, quoi. Donc et le Maghreb, sa voix et sa musique,
son côté oriental, on peut le dire.
Ouais, bien sûr, bien sûr, c'est pour ça qu'ils ont été sensibles à ça. Et Marseille, en fait, le sud, en fait, ça a commencé
Coin-là. Paris toujours, Paris au fil des décennies, Capri, et enfin, à 40 ans, l'Arménie. Tout ça, c'est dans ces images à lui. Je suppose que vous avez dû faire un choix.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, j'ai dû faire un choix. Et en fait, moi, j'ai maturé avec ces images. Enfin, je suis resté un moment avec ces images pendant près de 2 ans quand même. Hein. Bon, pas tous les jours, hein, mais je les avais à la maison et je les regardais, je me les passais comme ça. Donc, il y a 35 heures de vrai, entre 35 et 40 heures. Elles sont muettes et donc je me les passais. J'essayais de m'imprégner. Et de vivre avec pour pouvoir justement on peut pas prendre des rushs comme ça et faire un choix comme ça en 3 semaines, 1 mois, dire allez je vais monter quelque chose. Non, il fallait vraiment que je vive avec, que je sois imprégné de ces images.
Alors c'est pas seulement le monde vu et filmé par Charles Aznavour, c'est aussi Charles Aznavour dans le monde se filmant lui-même. Il y a les deux, parce qu'on voit aussi Charles Aznavour dans ces images-là.
Ouais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a besoin de se voir aussi sur les images, et donc il passe sa caméra. J'aime beaucoup ce moment où il a besoin du miroir comme ça, le moment où il a l'ascension, quoi. Il commence à être dans la réussite et à gagner de l'argent, et il aime se voir, et il le dit, et il l'assume complètement d'ailleurs.
Et votre choix pour le montage, c'est-à-dire de raconter Charles Aznavour, tel qu'on le connaît, c'est-à-dire avec ses succès, avec ses chansons, essayer de trouver les influences un peu partout dans le monde de ce que fut sa vie, de comment sa vie a été racontée en chansons.
En fait, ce qui a dominé dans mon choix, c'était l'émotion et à quel souvenir moi ça m'a renvoyé. Donc c'est très subjectif. Hein. J'ai vraiment fonctionné. Le choix, ce que j'ai fait, il fallait que ça me touche en fait, en premier. Il fallait que je sois ému, soit par la musique, soit par une image. Soit... C'était pas, il y a un cahier des charges, c'est Charles Aznavour, donc il faut absolument raconter ça. Pas du tout. Ce qui prédominait, c'était vraiment l'émotion du plan, la beauté du plan, la musique qui pourrait aller dessus, et ce que ça m'évoquait de ce qu'il avait pu dire dans ses bouquins ou dans ses entretiens, ou moi, les discussions qu'on avait pu avoir.
Ou même dans ses chansons.
Ah mais beaucoup dans ses chansons, bien sûr, oui, oui.
Sur le tournage de La tête contre les murs, Franju filme ses images majeures et me laisse glaner mes images mineures. Mes images d'Anouk Aimée, qu'il vient de filmer et qu'il va filmer encore dans quelques minutes. Pour lui, elle sera déesse, visage de reine antique, en imperméable, cadré à la perfection. Mais pour moi, la voilà, image mineure de ce visage de patrimoine, meilleur ami du vent et des assassins.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Je filme Jean-Pierre Mocky, mon ami, mon semblable. Grâce à lui, je suis acteur. Qu'on me poignarde ou qu'on me pende, je renais, je continue, je fais partie du monde, celui de la vie éternelle. Une vie qui s'enregistre, qui laisse une empreinte, celle des visages que l'on reverra toujours.
Voilà, c'est un extrait de votre film Marc Di Domenico, Le regard de Charles, donc à partir des images de Charles Aznavour, tourné par Charles Aznavour. Mais là, il y a un commentaire. Bien sûr, tout le monde aura reconnu la voix de Romain Duris, mais c'est Romain Duris qui se fait passer pour Charles Aznavour, qui raconte une histoire de Charles Aznavour. Je dois avouer que c'est le seul côté qui me gêne dans votre film.
Mais je crois pas qu'il se fasse passer pour Charles Aznavour.
Il parle comme si c'était un texte de Charles Aznavour, alors c'est un texte que vous avez écrit vous-même, non?
Oui, mais c'est un texte qui est quand même tiré de tout ce qu'a pu dire Charles. C'est-à-dire qu'il y a des phrases entières, c'est Charles qui les a rédigées.
L'art du storytelling, à partir des images, des interviews.
Et je crois pas qu'il cherche du tout à se faire passer pour Charles Aznavour. C'est Romain qui dit les mots d'Aznavour.
Vous êtes posé la question, est-ce qu'il fallait qu'il parle de Charles Aznavour à la troisième personne, ou est-ce qu'il fallait qu'il utilise?
Moi, j'avais besoin du jeu, en fait. J'avais besoin d'être dans le jeu, vraiment. D'être au présent et de vivre. Je trouve que ça donne plus de densité, quoi, ce qu'on est en train de voir. On est plus avec lui. Il n'y a pas la distance du « il faisait ceci ou cela ». En fait, il est en train de filmer et je voulais aller jusqu'au bout de ça. C'est-à-dire être « je filme, regarde, je suis en train de vivre ça ». Et si on l'avait mis à la troisième personne, alors tout d'un coup, ça devenait Romain Duris qui racontait la vie de Charles Aznavour. Non, là, ça se confond, alors peut-être que tu peux trouver ça flou, mais pour moi, il y a une évidence qu'il fallait être dans le jeu, J-E, et Romain, il y avait une évidence aussi dans son énergie, dans la façon dont il y a sa spontanéité, c'est pas du tout, comment dirais-je, le choix, c'est pas anodin, parce que Micha Aznavour, donc... ça fait très longtemps qu'il disait si un jour on fait un film sur mon père, je voudrais que ce soit Romain. Depuis qu'il avait vu le film de Jacques Audiard, De battre mon cœur s'est arrêté. Voilà, moi il m'en parle depuis toujours. Et donc quand on s'est dit, là il y a une voix, moi j'ai tout de suite dit, je veux absolument que ce soit jeu et que ce soit au présent, faut qu'on vive la chose. Lui m'a dit, faut demander à Romain Duris, parce que j'ai toujours pensé que ça devait être lui. On l'a appelé. Il a tout de suite dit oui, il est venu, il s'est emparé du texte au moment où il a posé sa voix. Moi, je trouvais que ça a amené vraiment une dimension supplémentaire aux images et à la musique, quoi. Mais puis, si je peux dire un mot sur la musique.
Bien sûr.
Non, parce que là, dans l'extrait qu'on a entendu, on entend, il y a un instrumental. Et en fait, c'est l'instru de Tu vis ta vie, mon cœur. Et j'ai eu la chance d'avoir les bandes originales, les multipistes. Donc depuis les années 50 jusqu'aux années 80. Et donc j'ai pu recréer une bande originale. Là, on est sur le Franju, on a l'impression que presque c'est la musique du film. Mais ça, c'est pareil, c'est une recréation.
Mais quand il dit image mineure.
Oui.
Bon, on se dit, est-ce que c'est Aznavour qui a parlé de ces images, les images qu'il tournait
lui-même? Oui, parce qu'il avait beaucoup de pudeur par rapport à ces images. Moi, il me disait toujours, je sais pas s'il faut les montrer, si. Il était tellement exigeant dans.
Et qu'est-ce qui vous a frappé dans ces images?
Il mettait un gros niveau en fait dans tout ce qu'il faisait.
Bien
soit
sûr.
Sur scène, il disait toujours chaque geste, c'est pas pour rien que je le fais, etc. Et là, comme ces images, c'est vraiment un mouvement spontané. Il réfléchissait pas. Et pourtant, il réfléchissait à ses plans. Il y a un moment même, il pose sa caméra sur des rails, on voit le train passer par dessus. Il y a différentes valeurs de plans parce qu'il tourne monté en fait. On le voit quand il filme Moula ou même parfois dans certains lieux à Hong Kong, il fait son plan large, son plan moyen, son plan serré, il change d'axe. Donc quand même, il y avait instinctivement, il avait les réflexes du réalisateur. Puis il a fait beaucoup de films. Et il en parle très bien avec François Chalet. Il y a une interview de François Chalet sur le passage du Rhin à l'époque. Et où Chalet lui dit, il lui a fait faire d'ailleurs un making-of du film à l'époque pour la télévision, pour la deuxième chaîne, je crois. Et Charles explique que, il a toujours sa caméra avec lui, planqué dans son costume ou quoi. Et donc c'était comme un besoin, quoi.
Ce qui est très étonnant, très émouvant dans ces images tournées par Charles Aznavour, c'est qu'il filme partout dans le monde, en Afrique, en Amérique du Sud, à Paris ou ailleurs, en Russie, il filme le peuple. Et votre texte, c'était de revenir aussi sur les origines modestes de Charles Aznavour, comme si c'était un élément crucial dans sa vie professionnelle aussi.
Mais c'est déterminant. Il y a une phrase qui m'a marqué de Charles, c'est « Je suis un fils d'émigrant, ça explique tout ». Ça, c'est sa phrase à lui, hein. Je l'ai enregistrée. Et toujours, il me disait, moi, j'ai quand même bougé pas mal avec lui. Hein. Il s'échappait tout de suite, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait les organisateurs. Je me souviens, une fois, on était à Knokke, là, en Belgique. Donc, on avait un déjeuner avec le bourgmestre, etc., etc. Et en fait, il s'est échappé. On a été dans la rue, on a été se promener, voir les gens. Il a filmé. Il disait, je suis un homme de la rue. Et c'est vrai, c'est vrai.
Le réveil culturel de Tufik Akem est à retrouver sur franceculture.fr.
Et le film de Marc Di Domenico, à partir des images tournées par Charles Aznavour, Le regard de Charles, donc, sort aujourd'hui. Marc Di Domenico, je viens d'entendre votre téléphone sonner, c'est l'alarme.
Je suis désolé, on va présenter le film à Valence, donc j'ai un train.
En tout cas, merci d'être passé ce matin, et je
merci
recommande vivement à tout le monde de voir ce beau film qui sort aujourd'hui dans quelques salles d'art et d'essai. Merci d'être passé.
Merci beaucoup.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture, l'esprit d'ouverture.
Est-ce qu'en France, les migrants sont vraiment mieux traités que les SDF? L'Europe aurait-elle été fondée sur ordre des services secrets américains? Les OGM sont-ils dangereux pour la santé? Mais surtout, ils sont là, ils sont cachés dans les villes, dans les campagnes. Les extraterrestres sont-ils parmi nous? Parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions, mais trop souvent des mauvaises réponses. Les idées claires, c'est votre pilule hebdomadaire contre la désinformation.
Les idées claires, Nicolas Martin. Chaque mercredi, retrouvez un podcast audio et une vidéo. Plus d'infos sur franceculture.fr. Informer, témoigner, décrypter. Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Deux femmes évoquent le sort des migrants. La cinéaste Mati Diop pour son film Atlantique et la romancière Marie Darrieussecq pour son ouvrage intitulé La mer à l'envers. C'est ce mercredi dans Les Matins.
Les matins de France Culture, ce mercredi dès 7h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La liste des produits qui ont brûlé dans l'usine Lubrizol à Rouen ont été dévoilées hier. La préfecture indique que plus de 5000 tonnes de produits chimiques ont été détruits dans l'incendie. Analyse et réaction dans ce journal alors qu'hier soir, 2000 personnes ont manifesté à Rouen pour demander plus de transparence. Dans cette édition, nous nous pencherons aussi sur les chiffres de la fraude sociale. Ils sont élevés, mais selon la Caisse d'assurance maladie, c'est parce que les contrôles sont plus nombreux. Sylvie Goulard devant les eurodéputés du Parlement. Son audition aura lieu aujourd'hui et elle devrait être bousculée, vous le comprendrez. Lubrizol coupable, État complice. Voici l'un des slogans scandés hier soir lors de la manifestation à Rouen qui a rassemblé environ 2000 personnes. Manifestation pour réclamer plus de transparence sur les conséquences de l'incendie de l'usine Seveso. Conformément aux souhaits du Premier ministre, la préfecture a mis en ligne hier dans la soirée la liste des produits qui ont brûlé sur le site. Et ce sont plus de 5000 tonnes de substances chimiques, Jérôme Jadot.
Principal produit parmi les 5253 tonnes parties en fumée, les additifs dits multi-usages. L'entrepôt abritait aussi des dispersants, détergents, solvants, améliorants de viscosité. Une liste longue, technique, qui n'a pas du tout rassuré Frédéric Poitou, expert judiciaire en chimie et pollution.
C'est un inventaire à la Prévert des substances toutes plus toxiques, dangereuses et explosives les unes que les autres. Il y a tous les cocktails, toutes les substances qui sont prêtes à réagir les unes avec les autres à de forts niveaux de température et de pression pour générer tout un tas d'acides inorganiques extrêmement toxiques, surtout quand ils sont à l'état gazeux. Et puis toutes les dioxines qu'on va retrouver nécessairement dans les suies quand elles vont être analysées, des dioxines. C'est une catastrophe vraiment majeure et je suis effrayé.
Selon le communiqué de la préfecture, la dangerosité de ces produits dépend notamment de la manière dont on est exposé. Elle envisage de compléter, si nécessaire, les prélèvements effectués dans l'air, l'eau, les sols et les aliments.
Reste donc des inquiétudes et des questions une semaine après cet incendie. Hier, à l'Assemblée nationale, Édouard Philippe, le Premier ministre, et Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, ont assuré que toute la transparence avait été faite. La transparence, ce n'est qu'un mot, répond le député socialiste de Seine-Maritime, département touché par l'incendie et par sa fumée. Christophe Bouillon insiste.
Il faut permettre, lorsqu'on effectue des mesures, c'est ce qui a déjà été fait depuis d'ailleurs l'incendie, on puisse permettre l'interprétation de cette mesure. La transparence, ce n'est pas simplement de fournir une liste de chiffres. Il faut dire pourquoi on a étudié telle ou telle molécule, qu'est-ce qu'on appelle un seuil. Bref, je pense qu'on est dans un moment où on voit bien que la population a une exigence de transparence qui est très haute, très élevée. Face à cela, il faut se permettre d'avoir des tiers de confiance. Pourquoi pas confier l'ensemble de ces données à des cabinets extérieurs, à des collectifs de chercheurs, de scientifiques indépendants, qui permettent de répondre à cette exigence que portent aujourd'hui les populations. Vous savez, la transparence qu'appelle de ses voeux le gouvernement, ce n'est pas une faveur, c'est inscrit dans la Charte de l'environnement, c'est l'article 7 de la Charte de l'environnement. C'est une obligation. Et je pense qu'il faut aller très très loin dans cette obligation.
Des propos recueillis à l'Assemblée nationale par Anne Fauquemberg. La mobilisation à venir s'annonce inédite depuis près de 20 ans en France. Ce mercredi, les policiers sont appelés à battre le pavé par tous les syndicats. Une marche de la colère organisée notamment à Paris sur fond de malaise de l'institution, de hausse des suicides et de réforme des retraites. Où en est la fraude sociale dans le pays? La fraude à la sécurité sociale. La Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM, présentait hier son bilan pour l'année 2018. Les chiffres sont plutôt élevés, mais la CNAM espère rassurer Anne Lorchouin.
Pour le directeur général de la CNAM, aucune étude sérieuse et étayée n'est en capacité de chiffrer correctement le montant de la fraude sociale en France. Mais il est, estime-t-il, du devoir de l'assurance maladie de contrôler et de sanctionner cette fraude, étant donné le poids que représentent les dépenses sociales dans la dépense publique au total. Donc depuis 2005, ce sont 2,4 milliards d'euros de fraude qui ont été détectés, stoppés et sanctionnés. Depuis 5 ans, le montant de ces fraudes a augmenté de 50%, une forte évolution que la CNAM préfère attribuer à un meilleur contrôle plutôt qu'à une hausse de la délinquance sociale. Désormais, c'est via le data mining et le croisement des données que la CNAM peut repérer ce qu'elle appelle des atypies, c'est-à-dire des données étonnantes eu égard au profil de l'assuré ou du professionnel de santé. Lorsque cette atypie est détectée, par exemple une allocation qui part directement vers un compte épargne, des contrôles, voire des enquêtes sont effectuées. En volume, ce sont les assurés qui commettent le plus d'infractions, mais en montant, ce sont les professionnels et les établissements de santé qui causent le plus de préjudice à l'assurance maladie. La grande majorité concerne en effet le remboursement de soins, 128 millions d'euros en 2018. Un infirmier qui, par exemple, facture des soins qu'il ne réalise pas, un médecin qui utilise des tarifs supérieurs à l'acte réellement effectué. Des fraudes qui sont le fait d'une minorité d'assurés ou de professionnels de santé, tient à préciser l'assurance maladie.
Autre bilan qui a été dressé hier, celui de la suppression de l'ISF, l'impôt sur la fortune. Cette suppression aura surtout bénéficié aux 5% des ménages les plus riches. Voilà ce que dit le rapport du comité de suivi. 5% des plus riches pour un gain de 6500 euros par an. Anne-Laure Jumet nous expliquera ces chiffres dans le journal de 7h. Mais pour le moment, il est 6h35, vous écoutez France Culture et nous partons à Bruxelles où l'on se dispute sur les aides publiques dont bénéficient les compagnies aériennes européennes. Alors que XL Airways pourrait être placé en liquidation judiciaire aujourd'hui par le tribunal de commerce de Bobigny, le ministre français Bruno Le Maire estimait dimanche qu'une compagnie néerlandaise aurait profité d'aides publiques pour concurrencer indûment XL Airways. Le ministre de l'économie avait annoncé vouloir saisir la Commission européenne pour concurrence déloyale, mais la question est plus compliquée qu'il n'y paraît, Pierre Benazet.
J'écrirai à la Commission européenne pour leur dire « mettez bon ordre à tout ça », affirmait dimanche Bruno Le Maire. Mais depuis dimanche, le ministère français des Finances avait des doutes sur l'institution compétente et n'a finalement pas saisi la Commission européenne. Et Bercy a bien fait parce qu'en réalité, la Commission n'a rien à faire dans ce dossier. C'est en fait l'agence de surveillance de l'Association européenne de libre-échange, l'AELE, qui est garante de l'application des règles de l'UE par la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande, car ils sont tous trois membres de l'espace économique européen, l'EEE, avec les 28 pays de l'Union. La deuxième pierre d'achoppement dans ce dossier, c'est l'existence des aides d'État. La compagnie Norwegian Air Shuttle affirme n'en avoir perçu aucune. Elle a bénéficié au début de l'année de 300 millions d'euros d'augmentation de capital. Un quart de la somme a été apportée par une banque dont l'État norvégien détient un tiers des parts. Il y a donc effectivement en quelque sorte une intervention publique, mais qui représente moins de 10% du total de cette recapitalisation. En revanche, la compagnie reste très fragile. Elle a eu beaucoup de mal il y a 10 jours à convaincre ses créanciers de décaler de 2 ans une dette de près de 340 millions d'euros.
Voilà maintenant une actualité qui concerne totalement la Commission européenne. L'audition des 26 candidats pour y devenir commissaire. Les Hongrois et Roumains ont déjà été recalés en début de semaine par les eurodéputés. Aujourd'hui, c'est la Française Sylvie Goulard qui sera auditionnée. Un grand oral qui s'annonce mouvementé, Marie-Pierre Vérot.
Il y a d'abord les emplois fictifs présumés du MoDem qui pourraient venir hanter l'audition de Sylvie Goulard. La justice française et l'Office européen de lutte anti-fraude sont saisis. Mais les émoluments qu'elle a reçus pendant 2 ans en tant que conseillère spéciale de l'Institut Berggren, un think tank américain, intéressent aussi les eurodéputés. Plus de 10 000 euros par mois, 300 000 au total, pour un travail dont Sylvie Goulard n'a pas fourni de preuves éclatantes. Ce qui, selon le député européen Yannick Jadot, nourrit le soupçon
de potentiels conflits d'intérêts qui pèseront tout au long du mandat si elle devait être confirmée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle prendra une décision qui pourrait concerner des entreprises américaines, vous avez toujours des détracteurs qui diront « Est-ce que c'est lié au fait qu'elle a touché pendant des années 10-12 000 euros par mois sans faire grand-chose d'un milliardaire américain ?»
Sylvie Goulard, qui doit embrasser un portefeuille alliant l'industrie, la défense, le marché intérieur, le numérique, devrait donc subir un interrogatoire public serré. Mais son cas n'est pas isolé. Un tiers des eurodéputés disposent en effet d'un travail rémunéré en dehors de leur mandat. Ils sont même une cinquantaine à gagner plus de 10 000 euros chaque mois, soit davantage que leurs émoluments d'élus. Tous les partis sont concernés. Au-delà des mots, aucun n'a donc vraiment intérêt à faire chuter la candidate française.
C'était Marie-Pierre Vérot pour France Culture. La Corée du Nord a tiré tôt ce matin un projectile qui semble être tombé dans la zone économique exclusive du Japon. C'est ce qu'indique en tout cas un porte-parole du gouvernement japonais. Notons aussi ce matin ces centaines de Hongkongais qui sont actuellement devant une école, l'école d'un jeune manifestant de 18 ans blessé hier par un tir à balles réel par la police. police. C'était lors d'affrontements en marge des manifestations pro-démocratie. La pluie s'en va vers l'est ce mercredi sur la France métropolitaine. Elle tombera encore ce matin du Grand Est jusqu'à l'Occitanie en passant par l'Île-de-France. Mais les averses vont s'estomper au fil de la journée pour laisser place à quelques belles éclaircies. Côté température, Météo France prévoit ce matin 13 degrés à Lille, 14 degrés à Brest et à Paris, 16 degrés à Strasbourg et Bordeaux, 17 degrés à Lyon, 20 à Marseille et 23 à Nice. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Il est 6h40 et donc c'est l'heure de votre journal des idées sur France Culture. Au lendemain, Jacques, du 70e anniversaire de la République populaire de Chine, les analyses se multiplient sur la montée en puissance du pays et son apparente stabilité.
Oui, je cite, « Même si le navire de l'économie chinoise traverse une zone de tempête prise entre le marteau de la guerre commerciale avec les États-Unis et l'enclume du surendettement de ses entreprises, Pékin n'a pas dévié de sa stratégie », observe Jean-François Dufour dans Le Monde. L'État et le parti ont renforcé leur contrôle sur les entreprises publiques comme privées avec pour objectif de substituer les technologies nationales aux technologies importées. Et le spécialiste de la Chine souligne que les mois ayant précédé le 1er octobre 2019 ont été marqués par une intense campagne idéologique. Émilie Franquiel s'intéresse quant à elle sur le site AOC aux évolutions de l'opinion publique, les descriptions officielles des démocraties occidentales rongées par des électeurs irresponsables, les inégalités, les discriminations, la corruption et les tensions sociales, visant à transmettre le message à la population chinoise que l'opposition entre un Occident fantasmé et une Chine atrocement autoritaire et caduque, semble prise avec moins de scepticisme. La politiste en veut pour preuve, au-delà des enquêtes internationales, le fait que les étudiants chinois envoyés à l'étranger ont désormais tendance à rentrer au pays. 80% rentrent après leurs études aux États-Unis et n'y reviennent pas plus critiques du système chinois, au contraire. Elle évoque un modèle alternatif à la démocratie qui s'impose après que les économistes, juristes et historiens libéraux ont été réduit au silence, une méritocratie paternaliste. Et elle cite le sinologue américain Andrew Nathan qui déclarait en 2015 « La concurrence idéologique entre démocratie et autoritarisme était censée avoir disparu avec la guerre froide, mais elle est repartie de plus belle avec la montée de la Chine. De fait, les préoccupations principales des Chinois sont la corruption des fonctionnaires, les inégalités sociales, la sécurité alimentaire et médicale et la pollution. Or, on les retrouve bel et bien à l'ordre du jour des dirigeants chinois. D'où le consensus sur un modèle de développement économique et politique propre à la Chine, n'ayant pas grand-chose à envier au modèle démocratique libéral. Une fois convertie à l'économie de marché, la Chine devait ne constituer qu'un maillon dans les chaînes de production d'une économie mondiale pilotée par les États-Unis et leurs multinationales, résume Philippe Golub dans Le Monde diplomatique. Le professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris revient sur l'histoire de l'intégration de la Chine dans l'économie mondiale, d'abord considérée comme une alliée dans la stratégie d'endiguement de l'Union soviétique. Ses gains restaient faibles dans les chaînes de valeur qui vont de la conception au produit final en passant par l'extraction ou la production et l'assemblage des composants. Pour exemple, Apple encaisse près de la moitié de la valeur totale de ses produits quand l'assemblage en Chine ne représente que 2%. Mais du fait de l'appropriation technologique par le biais des transferts de technologies imposées aux investisseurs étrangers et de la modernisation industrielle, la Chine parvient à capter une part croissante de la valeur ajoutée. C'est pourquoi, et quoi qu'il en coûte aux multinationales américaines, Washington cherche à déconstruire les chaînes de production transnationales, voire à rapatrier l'activité pour des sociétés sans usine comme Apple ou Nike. Cela réduirait considérablement leur marge bénéficiaire. Et c'est pourquoi Philippe Golub parle évoque plutôt qu'une guerre commerciale, une guerre géopolitique donc entre les États-Unis et la Chine. Pour Thierry Volton, dans le Figaro Vox, la célébration en grande pompe des 70 ans de la République populaire de Chine pourrait bien sonner le début de la sénescence pour un régime qui se pense inaltérable. Le spécialiste de l'histoire du communisme garde en mémoire l'effondrement de l'URSS que rien ne permettait de prévoir à l'époque de la glasnost. La conversion de la Chine à l'économie de marché pourrait pourrait faire écran à une telle décomposition, ne serait-ce que par la raréfaction de l'investissement étranger, devenu un chemin de croix pour nombre de sociétés occidentales, taxes et quotas de production, opacité du management, corruption, etc. Et par un taux de croissance divisé par deux depuis 10 ans. La guerre des tarifs douaniers déclenchée par Trump pour cause de concurrence déloyale de la part de Pékin, manipulation monétaire, soutiens étatiques aux entreprises nationales en violation des règles de l'OMC, complique la donne pour cette économie largement dépendante de ses exportations. La dernière livraison de la revue Tous Urbains est consacrée à l'urbanisation galopante de la Chine. Michel Lusseau évoque une forme de géopouvoir en référence au biopouvoir de Foucault, le pouvoir de spatialiser l'activité humaine dans des dispositifs qui s'avèrent prescriptifs. Plusieurs contributions s'attachent au contraire à la résistance des quartiers anciens où l'exiguïté des logements favorise paradoxalement la vie sociale dans les espaces collectifs. Vous écoutez France Culture, il est 6h45 et c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, la procédure de destitution de Donald Trump, mais vue depuis l'Ukraine.
Oui, on l'a observé, cette procédure de destitution depuis les États-Unis. Vendredi, on va la laisser suivre son cours, laisser là pour l'instant la guerre des mots et des tweets aux États-Unis. Dernier en date, Donald Trump dit être victime d'un coup d'État. Et puis, on va se concentrer sur cette affaire vue depuis l'Ukraine. Alors, imaginons, non pas Donald Trump prenant son téléphone le 25 juillet dernier pour appeler son homologue ukrainien, mais bien Volodymyr Zelensky, décrochant son combiné à la maison aux chimères qui sert de lieu de résidence présidentielle à Kiev, remerciant le président américain qu'il félicite pour sa large victoire à la présidentielle 4 jours plus tôt avec 73% des voix au second tour, lui renvoyant les compliments puissance 10 et s'entendant dire par Donald Trump qu'il serait bon qu'il enquête discrètement sur Hunter Biden, le fils du grand rival démocrate de Trump, Joe Biden, fils qui fut pendant 5 ans, de 2014 à 2019, membre du conseil d'administration d'une grande entreprise gazière privée ukrainienne Burisma. Bonjour Florent Parmentier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio ce matin. Vous êtes enseignant à Sciences Po, chercheur associé au Centre de géopolitique de HEC et cofondateur du blog Eurasia Prospective. Alors, il faut d'abord replacer les choses dans leur contexte. Quand Hunter Biden, le fils de Joe Biden, est membre du conseil d'administration de Burisma, son père est alors le vice-président de Barack Obama et les deux hommes sont très impliqués dans la politique intérieure de l'Ukraine.
Oui. Ce qui est frappant, effectivement, c'est que à cette époque-là, donc nous sommes après 2014, ce qui constitue la, on va dire une vraie date de rupture dans les relations russo-ukrainiennes. Mais auparavant, en fait, les États-Unis étaient déjà impliqués à divers titres, et un certain nombre de républicains étaient également présents. On sait parmi les hommes autour de Donald Trump que son propre avocat, Rudolf Giuliani, a été lui-même assez présent en Ukraine depuis 2004.
Et pourquoi ils sont si présents en Ukraine ?
L'idée, en fait, est que après 1991, l'Ukraine fait partie des principaux pays dans lesquels l'aide américaine est dispensée pour un certain nombre de politiques à mettre en place, et notamment une politique en lien avec le développement, la reconversion des industries militaires de l'époque, et puis également la question de la lutte contre la corruption, qui a véritablement fait partie de ces priorités américaines. Et c'est donc à ce titre qu'il y a une forme de peut-être de déception ou d'inquiétude de la part des Ukrainiens, des médias ukrainiens, de la communauté stratégique ukrainienne, qui depuis plusieurs années, c'est d'être le bon élève, le bon partenaire pour les États-Unis, qui se retrouve aujourd'hui un peu prise en étau ou prise au piège. Justement, voilà une affaire qui est une affaire américaine.
C'est justement pour mener une enquête sur la corruption dans cette grande entreprise qu'est Burisma que le procureur ukrainien Viktor Chokin se met au travail. Donc Burisma est visé par des soupçons de corruption. Ce procureur dont il est question dans l'échange téléphonique lance une enquête et c'est là, a priori, que serait intervenu Joe Biden. D'abord, quelques mots sur Burisma. C'est une très grosse société d'extraction de gaz. Il a un bon poste, Hunter Biden, membre du conseil d'administration. C'est un bon poste.
Il est donc Burisma, peut-être en quelques mots. Effectivement, une entreprise ukrainienne d'hydrocarbures dont les licences d'exploitation des hydrocarbures ont été données, offertes sous Viktor Yanukovych, le directeur de Burisma, Mykola Zlochevsky. Et lui-même un ancien ministre de l'écologie sous Yanukovych. Il a eu ses licences d'exploitation de licences des ressources sous Viktor Yanukovych, en 2003-2004, quand Viktor Yanukovych était Premier ministre, et puis ensuite en 2010-2012, quand Viktor Yanukovych était lui-même président. Ce qui est intéressant, c'est que donc le possesseur, de l'entrepreneur derrière Burisma, lui-même est obligé de quitter l'Ukraine fin 2014. Ce qui n'empêche pas qu'il n'a pas disparu, il est toujours à la tête de l'entreprise. Il a même organisé au printemps 2019 un forum de la sécurité énergétique à Monte Carlo. Donc on a voilà une entreprise qui pour ça est extrêmement présente. Joe Biden dans ce contexte, enfin Hunter Biden dans ce contexte, le fils de Joe Biden, lui-même a un rôle finalement de bien tout simplement de d'assurer la respectabilité de cette entreprise à l'étranger, et donc pour cela on a effectivement recours à le fils du vice-président qui lui-même est avocat et donc peut jouer ce rôle
avec un bon salaire,
avec un salaire qui est annoncé pour ce qu'on a pu trouver effectivement de sources ouvertes autour de 50 000 $.
Alors, un document qui n'a pas fait beaucoup de bruit a été publié cette semaine aux États-Unis par un ancien journaliste du Washington Post et d'Associated Press. C'est une déclaration devant notaire de ce procureur Viktor Chokine, qui a donc lancé une enquête pour corruption à Burisma avant d'être remercié. Cette déclaration est datée du 4 septembre. Il accuse explicitement Joe Biden de l'avoir fait licencier parce qu'il voulait enquêter sur Burisma. Quelle importance, quelle crédibilité donner à ce document et à un témoignage en tant que tel d'un ancien responsable de la justice en Ukraine, donc nommé pendant la présidence de Petro Poroshenko, auquel a succédé le président Zelensky.
Viktor Chokine, donc, était jusqu'en 2016 le procureur général. Il y a eu cette situation dans laquelle Joe Biden, donc le vice-président américain à l'époque, a pu obtenir la démission. C'est ce qu'on a plus ou moins, voilà, en tout cas, pu comprendre.
Joe Biden s'en est jamais caché de vouloir sa tête. En tout cas, il y a une vidéo qui circule, faite en 2018, où il dit il menace de retenir $1 milliard de subventions à l'Ukraine jusqu'à ce que ce procureur soit démis de ses fonctions.
Et donc, effectivement, quelle crédibilité donner ? Alors, il aurait été plus facile de mettre en cause la crédibilité de M. Chokine si lui-même avait été nommé, en tout cas, et mis en place. À ce moment-là. En tout cas, du point de vue ukrainien et du point de vue du débat politique effectivement en Ukraine, il y a cette idée selon laquelle il y a là une forme de chantage en fait qui est extrêmement néfaste pour les affaires et surtout qui est extrêmement difficile à interpréter de la part des Ukrainiens dans la mesure où à la fois on leur demande de lutter contre la corruption, mais en même temps on attaque un peu pour des raisons plus ou moins justifiable, en fait, l'un des principaux acteurs de cette justice anticorruption.
Bon, en tout cas, ce document que je viens de citer doit être pris avec prudence aussi parce qu'il a été publié par un journaliste américain que son ancien employeur, le Washington Post, récuse aujourd'hui. C'est vrai que la publication de ce document semble donner raison à Donald Trump d'avoir voulu une enquête. Il parle, le procureur, dans ce document, le procureur ukrainien licencié, donc dit-il, à la demande de Joe Biden, il parle d'une ingérence de l'administration américaine, c'est le mot qu'il emploie. Ingérence, mais par tout cet argent que les États-Unis donnaient à l'époque en échange d'un, alors d'aucuns diraient d'une amélioration des conditions de travail de notamment de ceux qui travaillent pour la justice en Ukraine et contre la corruption, mais d'autres diraient en échange d'un ménage quoi.
On a effectivement voilà une difficulté particulière en fait sur ce plan en tout cas. Ce qu'il faut voir, c'est que la lutte contre la corruption fait partie des enjeux fondamentaux dans les relations États-Unis-Ukraine depuis un certain nombre d'années. Ce qu'il faut voir également, c'est que la lutte contre la corruption, c'est à la fois une politique qui permettrait finalement d'arrimer l'Ukraine
au
bloc européen et
de rapprocher des États-Unis. Candidate.
On a cette idée, effectivement, selon laquelle, finalement, l'une des principales difficultés sur la route de l'intégration de l'Ukraine dans les structures euro-atlantiques, c'est la corruption. Et l'une des principales manières pour la Russie d'arriver, finalement, à dominer le jeu politique ukrainien, passait par l'utilisation et la compréhension de ces réseaux de corruption.
Oui, vous parlez de la Russie.
Gaz, que ce soit... oui.
Forcément, là, c'est un jeu à trois bandes et la Russie est là en...
Et l'acteur caché, toujours, dans cette relation, effectivement. Partant de là, la lutte contre la corruption est à la fois quelque chose d'impératif dans les relations entre l'Ukraine et les États-Unis. C'est également, finalement, dans le jeu politique ukrainien, une manière de condamner l'adversaire. Finalement, chaque nouveau président va nommer un responsable anticorruption qui sera plus ou moins chargé de faire le ménage, mais surtout d'attaquer de manière sélective ses adversaires. D'où cette question, en fait, qui est à la fois une question de politique étrangère, mais aussi de politique intérieure.
Dans cet échange entre Donald Trump et Zelensky, le président ukrainien dit « Nous sommes prêts à ouvrir une nouvelle page sur la coopération dans les relations entre les États-Unis et l'Ukraine ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Et est-ce que vous avez l'impression, Florent Parmentier, en lisant le verbatim de cet échange, que les États-Unis exercent une sorte de chantage? Il faut dire que l'aide militaire aujourd'hui américaine auprès de l'Ukraine, c'est 250 millions de dollars pour lutter contre les séparatistes pro-russes soutenus par Moscou, notamment dans le Donbass. Est-ce que les États-Unis pourraient retirer cette aide militaire si cette enquête n'avait pas lieu? En tout cas, est-ce que quand le coup de fil a lieu, c'est ce qui est sous-entendu dans l'histoire?
On peut penser que il faut savoir qu'il y avait une grande inquiétude en amont de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump vu de Kiev. Pourquoi? Parce que le président Poroshenko, finalement, s'était fait le meilleur allié des États-Unis sur place. Et quand Donald Trump est arrivé, a été élu, l'une des premières choses qu'on pouvait sentir à Kiev était une forme de tension, qui était de se dire, mais est-ce que nous n'allons pas nous retrouver dans une situation où nous serions finalement une sorte de monnaie d'échange dans les relations entre les États-Unis et la Russie, donc un peu une forme d'objet en fait de cette relation-là, plutôt qu'une relation en soi. Et donc c'est un peu dans ce cadre-là, voilà que cette inquiétude en fait au long terme, c'était d'abord en quelque sorte affaiblie quand l'enquête russe, pour le coup menée aux États-Unis par le procureur Mueller, permettait de finalement de considérer encore que la Russie était responsable d'une ingérence dans la politique américaine, et par conséquent en fait il y avait cette idée selon laquelle l'Ukraine effectivement devait lutter aussi en première main contre ce type d'ingérence, et avec des ingérences pour le coup beaucoup plus fortes. Est-ce que Donald Trump a plus ou moins rassuré de ce point de vue-là. Il a nommé un représentant qui vient de démissionner, qui était M. Kurt Volker, pour négocier un peu ce plan de paix. Et donc, ce qu'il faut retenir, effectivement, de ce point de vue-là, c'est que, oui, il y a de manière assez instinctive une espèce de crainte dans le débat politique ukrainien du fait du lâchage américain, ou en quelque sorte d'être une monnaie d'échange et de régler à vil prix, finalement, la guerre dans le Donbass et la question de la Crimée.
Merci beaucoup, Florent Parmentier, d'être venu ce matin pour nous parler de ça. Vous co-signez un ouvrage sur votre terrain de prédilection, la Moldavie. La Moldavie à la croisée des mondes, avec Josette Durieux. C'est aux éditions Non-Lieu. Merci d'avoir été avec nous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente la rétrospective Kira Muratova. Réalisatrice sans concession et figure marquante du cinéma soviétique et ukrainien des années 60 jusqu'au 21e siècle, Kira Muratova a supposé un regard intransigeant sur le monde contemporain. Disparue en juin 2018, elle a réalisé en 45 ans 16 longs métrages et 4 courts. Découvrez 5 films en version restaurée, demain au cinéma, et toute son œuvre jusqu'au 20 octobre à la Cinémathèque française à Paris. Un événement France Culture.
Vous écoutez France Culture, il est 6h57. Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Julie.
Mais pourquoi vous riez comme ça?
Bonjour à tous et à toutes.
Alors, votre humeur du jour ce matin, qui est dans la droite ligne de ce qu'on vient de dire pendant 11 minutes dans les enjeux internationaux, qu'est-ce que l'on nous cache?
Oui, qu'est-ce que l'on refuse de nous dire? Le « on » désignant un ensemble vague, les pouvoirs publics. Mais là, je ne veux pas parler de la situation à Rouen, mais d'un autre cas de figure qui s'est pourtant vu ces derniers jours comme le nez au milieu de la figure et que pourtant personne n'a évoqué. Je veux parler de l'état de santé du président Chirac lorsqu'il était encore à l'Élysée. En septembre 2005, souvenez-vous, Jacques Chirac a fait un AVC, un petit AVC, a précisé l'Élysée à l'époque. Soit, mais avec quelles séquelles, avec quelles conséquences pour sa capacité à gouverner? Alors, où je vous parle, personne en dehors du premier cercle des Chiraciens n'est capable de le dire. J'ai posé la question plusieurs fois sans obtenir de réponse véritable. Alors, bien sûr, ce type d'accident de santé, ce type d'AVC peut laisser des traces légères ou sévères, mais en lisant entre les lignes les informations qui nous arrivaient de l'Élysée, il était possible de comprendre que cet incident cérébral n'avait pas été complètement négligeable. Notamment, il avait probablement influé sur la manière de gouverner. Jacques Chirac relisait la presse de l'époque, de l'Express au Monde. On parle d'un président qui a besoin de repos, d'un agenda allégé, d'absence devant certains interlocuteurs. Deux mois après, deux émeutes éclatent. Les émeutes dans les quartiers dits sensibles qui débutent après la mort de deux jeunes, Zied Bena et Bouat Traoré, le 27 octobre 2005. Et puis une autre émeute, une émeute dans les quartiers dits du pouvoir entre deux moins jeunes, Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin, qui s'affrontent de manière pratiquement ouverte, comme s'ils profitaient d'une vacance du pouvoir. Et cependant, Jacques Chirac ne s'exprime que le 14 novembre. Il apparaît alors, il prononce un discours écrit avec des lunettes. Le fait avait été évoqué à l'époque comme s'il témoignait de troubles de la vision liés à son AVC. Et aujourd'hui, alors que tout semble dit sur Jacques Chirac, des heures de direct, nul n'est capable de dire encore s'il était complètement en état de gouverner au cours des 18 derniers mois de son second mandat.